Bonjour et bienvenue à Repensons la paix et la sécurité, le podcast de Stop Feeling War, une association qui s'intéresse à la sécurité, au commerce des armes et à la paix. Ce podcast est une série d'interviews avec différents activistes, chercheurs et spécialistes sur des sujets concernant les armes et notre sécurité. Oli et Alice, qui travaillent pour Stop Feeling War, discutent avec ces experts et remettent en question la militarisation avec l'aide de nos invités. Dans cet épisode, nous interviewons Andrew Feinstein de Shadow World Investigations sur le thème de la corruption dans l'industrie de l'armement. Cet épisode est exceptionnellement en anglais et en français. Vous écoutez actuellement la version doublée en français, le podcast ayant été enregistré à l'origine en anglais. Si vous souhaitez écouter l'épisode complet en anglais, vous pouvez le trouver sur la plateforme que vous utilisez actuellement pour écouter ce podcast. Bonjour Andrew, et merci de participer à notre podcast. D'abord, j'aimerais te demander de te présenter, s'il te plaît, et de nous parler un peu de ton parcours et de ce que tu fais en ce moment.
Sure. So first of all, thank you very much for having me on. And
bien sûr. D'abord, merci beaucoup de me recevoir et pardonnez mon manque de vocabulaire. Je viens d'Afrique du Sud et j'ai été membre du Parlement avec le Parti du Congrès national africain sous Nelson Mandela lors de notre premier Parlement démocratique. J'ai découvert la corruption dans le commerce des armes alors que j'étais membre du Parlement. En tant que député du Congrès national africain et président de la Commission parlementaire des comptes publics, j'ai tenté d'enquêter sur un contrat d'armement très corrompu, conclu par mon propre gouvernement. Et j'ai démissionné du Parlement pour protester lorsqu'on m'a empêché de mener une enquête indépendante. Ce contrat d'armement impliquait 5 pays européens, dont la France, et c'est vraiment à ce moment-là que, selon moi, le parti du Congrès national africain a perdu son sens moral. Cela m'a conduit à écrire un certain nombre de livres sur le commerce des armes, notamment un livre intitulé After the Party, puis The Shadow World Inside the Global Arms Trade, qui est également devenu un long métrage documentaire. Je suis également le directeur exécutif d'une organisation à but non lucratif, qui est basée à Londres, appelée Shadow World Investigations, qui était autrefois connue sous le nom de Corruption Watch UK.
Merci Andrew. C'est vraiment super de t'entendre parler de ton parcours et de l'expérience que tu as acquise en travaillant sur la corruption dans les contrats d'armement dans plusieurs pays. Ce que je veux te dire, c'est que c'est fascinant de voir comment cela semble être un même schéma qui se reproduit partout, encore et encore. Je me demandais si tu peux nous donner ta définition de la corruption et de ce que vous en pensez. Qu'est-ce que cela signifie et comment faire le lien avec le commerce des armes en général?
J'ai une définition assez large de la corruption, car je pense que lorsqu'on est trop spécifique, on exclut parfois des comportements malhonnêtes ou néfastes, alors que nous devrions être aussi inclusifs que possible. Pour moi, la corruption, c'est l'utilisation inappropriée d'une fonction publique pour un gain personnel et ou privé. Et le lien avec le commerce des armes, il est très simple. D'après un travail extraordinaire réalisé par Joe Rober, qui travaillait à l'époque pour Transparency International, le commerce des armes représente environ 40% de toute la corruption dans le commerce mondial. Alors oui, au départ, cela peut sembler absurde, car il ne s'agit pas d'un commerce très important, mais il représente un pourcentage considérable. Et les raisons pour cela, elles sont très simples, elles sont très évidentes. Laissez-moi vous expliquer. D'une part, il n'y a qu'un petit nombre de très grosses transactions de transfert d'armes par an, qui valent chacune littéralement des dizaines de milliards de dollars, et qui sont donc extrêmement importantes pour les pays acheteurs et vendeurs, ainsi que pour tous les intermédiaires, à savoir toutes les personnes qui se trouvent au milieu entre ces deux acteurs. De plus, comme ces acquisitions ou ces demandes sont de nature très technique, très peu de personnes sont réellement impliquées dans la décision de l'équipement que le pays achètera et à qui il l'achètera. Et enfin, et c'est le point le plus crucial, tout ce qui se passe dans le cadre d'une vente d'armes se déroule derrière un rideau de secret imposé par le concept de sécurité nationale. Et il se déroule donc dans une impunité quasi légale. Et du coup, la corruption dans le commerce des armes fait rarement l'objet d'une enquête et encore moins d'une procédure judiciaire ou d'une condamnation. Et ce sont tous ces éléments qui ont fait du commerce des armes un terrain fertile pour une corruption aussi massive. Merci. En ce qui concerne ces éléments, nous on se demandait s'il existait des contextes spécifiques qui encourageraient la corruption. Vous parliez du contexte de la sécurité nationale qui empêche même le système judiciaire d'enquêter sur la corruption lorsqu'il s'agit du commerce des armes. Je sais que dans certains pays, il y a aussi le secret des contrats commerciaux et d'autres conditions. Donc, quelles sont les conditions qui peuvent réellement empêcher la corruption ou au contraire qui peuvent la favoriser?
I think that in terms of the sort of conditions that create that fertile environment for corruption.
Je pense que, en ce qui concerne les conditions qui créent un environnement fertile pour la corruption, il y a un certain nombre d'éléments clés. Le premier, c'est une relation très étroite entre les fabricants d'armes, les entreprises de défense et leur gouvernement. Dans certains pays, comme la France ou l'Italie par exemple, l'État détient toujours des parts ou même une partie de l'entreprise qui fabrique les armes du pays. Dans d'autres pays comme le Royaume-Uni, où l'État n'a pas de part dans les entreprises comme BAE Systems ou Rolls-Royce, la relation est toujours extrêmement proche et les individus font des allers-retours entre la politique, l'armée, le gouvernement et ces entreprises, ce qui crée des conditions très propices à la corruption ainsi qu'à ce type de relation. Je pense que dans les pays où il y a une tendance au secret et à la protection de ces entreprises privées, le risque de corruption est encore plus grand. Ensuite, en ce qui concerne les pays acheteurs, je pense que dans les pays où il y a peu ou très peu de contrôle et d'équilibre entre les pouvoirs, où les institutions de l'État sont assez autocratiques, où les tribunaux n'ont aucune forme d'indépendance, les dirigeants et les acteurs privés de ces pays peuvent s'en tirer à bon compte, ce qui crée un environnement très fertile pour ce type de corruption et bien sûr, toute forme de secret autour de l'armée et de la défense, et cela peut aller d'un pays comme l'Arabie Saoudite, à la Chine, en passant par Israël, où la plupart des dépenses de défense sont en fait tenues secrètes. Elles ne sont jamais rendues publiques au Parlement ou à qui que ce soit d'autre. Alors qu'est-ce que nous pouvons faire? Quelles conditions est-ce qu'on peut créer pour rendre la corruption plus difficile? Tout d'abord, je pense que dans les pays vendeurs, c'est-à-dire dans nos pays comme la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, les États-Unis, la Chine, la Russie, il est essentiel que nous ayons un contrôle parlementaire important sur les contrats d'armement et les exportations d'armes, car cela n'existe dans aucun de ces pays de manière concrète et efficace. Deuxièmement, je pense qu'il est incroyablement important d'avoir à disposition dans le domaine public les communications et les liens entre les gouvernements, l'armée et les entreprises, même si ces entreprises sont partiellement ou totalement détenues par l'État. Je pense que les citoyens et les citoyennes doivent exiger ce genre de transparence et de redevabilité. Cela ferait une très grande différence. Et puis, il faut une bien meilleure transparence autour de la question du recours aux intermédiaires, ce que nous appelons parfois des middlemen, des marchands d'armes, des courtiers en armes, les agents en armes, les brokers, car on estime qu'environ 84% de toute la corruption dans les transactions d'armes passe par ces intermédiaires. Et les gouvernements et les entreprises prétendent souvent qu'ils ne peuvent pas répondre aux questions ou donner des informations sur ces intermédiaires en raison du secret commercial. Mais en fait, tout ce que font ces intermédiaires, c'est payer les pots de vin, être bien payé pour payer les pots de vin et blanchir l'argent pour payer les pots de vin. Donc je pense que ces trois choses sont des éléments que nous pouvons faire activement pour réduire la corruption dans le commerce des armes dans lequel nos pays sont engagés.
Merci Andrew. Alice et moi avons également discuté ce matin d'une affaire de corruption en cours d'investigation en France concernant les ventes de Rafale à l'Inde et de la façon dont l'enquête a été ouverte en France. Nous pensons que c'est une bonne chose, un bon premier pas, que cette enquête soit en cours, mais il y a tellement d'exemples de ces intermédiaires et des différentes règles qui s'appliquent au commerce des armes et comment, sous tant de présidents différents, autant d'affaires de corruption sont apparues en France. Je me demandais ce que tu en pensais de tout cela concernant la France.
France is incredibly contradictory when it comes to corruption in the arms trade.
La France est incroyablement paradoxale en ce qui concerne la corruption dans le commerce des armes. Il ne fait aucun doute pour moi, qui ai enquêté et écrit sur le commerce mondial des armes depuis plus de 20 ans, que la relation entre les hommes politiques, leurs partis politiques et la corruption dans le commerce des armes est probablement plus marqué en France que dans tout autre pays occidental. Ces liens sont très étroits, et si on se réfère à tous les présidents français d'après-guerre, et sans doute aussi au Premier ministre, il y a au moins pour chacun de sérieux soupçons de corruption dans le cadre de contrats d'armement et même parfois des accusations avérées. Et ce sont deux choses bien différentes, évidemment. Mais les scandales de financement de partis politiques, de personnalités politiques individuelles bénéficiant de contrats d'armement sont probablement plus fréquents en France que dans tout autre pays occidental exportateur d'armes. Cependant, et parallèlement à ça, la France est légèrement plus compétente pour ce qui est d'obliger les parties prenantes à rendre des comptes, et ce malheureusement sur la base d'une comparaison avec un niveau très bas, si on compare par exemple avec le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Espagne ou l'Italie. Donc en France au moins, il y a eu le procès autour du scandale de l'Angola qui concernait la vente d'armes dans le cadre de la guerre civile angolaise, dont ont bénéficié des politiciens et des partis politiques français très envieux. Dans le cas de Nicolas Sarkozy, par exemple, certaines mesures ont été prises dans le cadre de l'affaire Karachi. Pour chacun de ces cas qui ont été révélés et qui ont fait l'objet d'une enquête en France, il y en a probablement des dizaines qui ne l'ont pas été, que je connais et sur lesquels j'écris. Donc la France est légèrement meilleure que les autres, mais concrètement, les autres ne font pratiquement rien du tout. Le problème avec la France, c'est que même lorsque la procédure judiciaire suit son cours, le résultat semble toujours être en faveur des individus, des partis politiques et des sociétés de défense, même s'il s'agit de condamnations où ils ou elles sont reconnus coupables. Et j'étais témoin d'une situation où des politiciens, des intermédiaires, des entreprises ont été accusés, déclarés coupables, puis ces condamnations ont été révoquées. Mais au moins il y a des procès, donc la France est meilleure à cet égard. Je pense que la France est remarquablement opaque en ce qui concerne son commerce des armes. Je pense que le Parlement français est extraordinairement défaillant dans le fait qu'il s'intéresse si peu aux exportations d'armes de la France. Et deuxièmement, à la corruption qui y est liée. Et ce n'est guère surprenant. Lorsque vous avez des structures de partis puissantes, comme c'est le cas en France, même si je sais qu'avant les dernières élections, le terrain politique des partis a beaucoup changé, mais lorsque vous avez des partis puissants avec des leaders forts, comme cela a tendance à être le cas dans les systèmes présidentiels, les parlements, en particulier les membres de ces partis, ont tendance à être très silencieux sur une chose, les contrats d'armement et les scandales de corruption. Et je pense que c'est le problème que connaît la France en ce moment. Il n'y a pas assez de transparence dans le contrôle des exportations d'armes, dans ce qui est rendu public ou dans le financement des partis politiques. Merci beaucoup pour toutes ces informations. La question suivante qu'on voudrait vous poser, ce serait... Comment pouvons-nous lutter contre la corruption? Comment pouvons-nous réellement rendre les gens responsables, leur faire rendre des comptes, même lorsqu'il s'agit d'une affaire qui n'en finit pas et dont le résultat judiciaire est toujours le même? Donc, quelle est la prochaine étape pour que nous ayons plus de contrôle et plus de responsabilité?
I think the key place to intervene in France is with the transparency making.
Je pense que le point clé sur lequel il faut intervenir en France, c'est la transparence et l'information du public, parce qu'il s'agit de l'argent du contribuable, et je dirais qu'il faut des changements fondamentaux en France dans la façon dont les contrôles des exportations d'armes sont appliqués. De plus, je pense que certaines lois sont problématiques et pourraient être renforcées de manière significative, parce qu'à l'heure actuelle, comme dans beaucoup d'autres pays, et je crois que c'est aussi le cas pour le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et d'autres, les contrôles des exportations d'armes sont pratiquement facultatifs, car il n'y a pas de conséquences si le gouvernement ne les suit pas correctement. Mais en réalité, comme vous le dites, la grande majorité des citoyens français n'ont aucune idée de ce qu'est le contrôle des exportations d'armes en France, et encore moins des conséquences que cela entraîne. Je pense donc que la transparence au Parlement et dans les médias, il ne faut pas oublier que les médias ont un rôle très important à jouer, tout comme la société civile, dont les organisations comme la vôtre font partie, c'est vraiment, pour moi, le cœur du problème. Je pense que lorsque vous dites qu'il est difficile pour les gens de suivre ces affaires, il est vraiment difficile d'intéresser les gens sur ce sujet. Il y a quelques années, j'ai fait des conférences en Allemagne, et il y avait un sondage qui a montré que la corruption dans le commerce des armes en Allemagne, qui est également très répandue, préoccupe 73% des citoyens allemands. Mais pour ces 73% de citoyens allemands, il s'agissait de la 11e à la 10e question la plus importante pour eux. Donc, peu importe qu'ils s'en préoccupent, ce n'était tout simplement pas une priorité pour eux. Et je pense qu'il est de notre responsabilité, en tant que société civile, d'augmenter la pression sur nos représentants et représentantes élus et sur nos procureurs Et la façon dont nous devons faire ça, c'est de communiquer des informations sur la réalité du commerce mondial des armes de manière accessible, de manière facile et de manière divertissante pour que les gens ordinaires puissent comprendre ce sujet et puissent accéder à ces informations. Vous savez, je pense que si la majorité des citoyens et des citoyennes français étaient conscients et conscientes que l'armement français qui est vendu en leur nom, en utilisant leur argent des impôts, était utilisé pour commettre des crimes de guerre au Yémen, en ciblant intentionnellement des civils yéménites innocents par la coalition dirigée par l'Arabie Saoudite, ce que les groupes d'experts de l'ONU ont identifié comme des crimes de guerre, si les Français, d'abord, voyaient cette réalité et comprenaient le lien qui existe avec eux, que leur argent est utilisé pour cela, je pense que leur réaction serait bien différente. Le deuxième élément, c'est la compréhension du coût et des conséquences pour les citoyens et les citoyennes dans leur vie quotidienne. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Eh bien, des milliards d'euros sont utilisés pour subventionner les entreprises d'armement françaises, parce qu'aucune de ces entreprises ne ferait de bénéfice si elle ne recevait pas d'énormes subventions gouvernementales pour la recherche, pour le développement, pour la promotion des exportations, pour engager du personnel dans les ambassades françaises qui seront chargées de promouvoir ces ventes d'armes, etc., etc. Et tout cela, c'est fait avec de l'argent public. Et je pense que si nous rendions explicite la quantité d'argent gaspillé et si nous faisions comprendre aux Français et aux Françaises les coûts en termes d'opportunités socio-économiques de tout cet argent utilisé, donc en d'autres termes, de ce qu'ils ne reçoivent pas à cause de l'argent dépensé dans les armes, je pense que cela serait différent. Est-ce que la population française a le sentiment que la mise en place des mesures gouvernementales pour le vaccin contre le Covid-19 ne nécessiterait pas plus d'argent ? Est-ce que les Français et les Françaises ont le sentiment que l'éducation en France ne nécessiterait pas plus d'argent ? Ont-ils le sentiment que les infrastructures en France, les infrastructures publiques, les transports publics, les ponts, les routes, les chemins de fer sont tous parfaits et ne nécessiteraient pas plus d'investissement ? Parce que bien sûr, ce n'est pas le cas. Et s'ils comprenaient que la raison pour laquelle ces domaines sont sous-investis est due aux dépenses massives d'argent pour ces entreprises d'armement et pour la fabrication des armes, je pense qu'il serait alors plus facile d'avoir des conversations sur ce sujet. Et le point important à souligner, c'est que vous savez, lorsqu'un politicien français reçoit un pot de vin, lorsqu'un parti politique français reçoit des dons provenant d'un contrat de vente d'armes, c'est l'argent des contribuables français qui est utilisé pour payer ces pots de vin. Parce que c'est de l'argent qui devrait être payé par le pays acheteur à la France, mais un énorme pourcentage de cet argent que la France gagne va en pot de vin, à la fois au pays vendeur, qui est la France, aux personnes qui permettent le paiement des pots de vin, et ensuite au pays acheteur et aux politiciens qui prennent les décisions. Nous avons publié un livre intitulé Indefensible, Seven Myths That Sustain the Global Arms Trade, qui est disponible gratuitement en ligne sur un site appelé projectindefensible.org. Ce livre est une tentative d'aider les populations à discuter de l'impact réel que le commerce des armes a et de la manière dont il les appauvrit, la manière dont il ébranle leur démocratie et l'état de droit, mais aussi, et le plus important, il nuit à leur sécurité. Car la réalité, c'est que la France achète ses propres équipements militaires en fonction des commissions versées. Elle n'achète donc pas le meilleur équipement nécessaire pour protéger la France, elle achète l'équipement qui permet les plus gros profits. Donc nous n'avons même pas acheté des équipements adéquats pour défendre notre population. Nous vendons des armes aux personnes qui sont les partisans idéologiques, les financiers et souvent les personnes qui fournissent des armes aux extrémistes islamistes supposés, qui sont impliqués dans une guerre perpétuelle contre la terreur, parce que c'est ça l'Arabie Saoudite. Donc, si ce genre de choses étaient signalées aux gens de manière accessible, et je pense que nous, en tant que personnes engagées, avons la responsabilité d'utiliser autant de moyens de communication que possible. Les réseaux sociaux sont très importants, parler aux gens est très important, les films sont très importants, les courts-métrages aussi. Il faut mettre des informations utiles entre les mains des gens, parce que c'est seulement quand les électeurs et les électrices commencent à faire pression sur les politiciens et disent « Eh bien, en fait, vous savez, je ne vais pas voter pour vous, à moins que vous preniez position sur cette question. » Ou « Vous savez quoi ? Je ne vais payer que 70% de ce que je dois en impôts, parce que 30% de cet argent va servir à payer, à vous et aux princes royaux d'Arabie Saoudite, des bonus sur les armes que la France leur vend. » Je pense que c'est de cette façon dont nous pouvons faire progresser la conversation, parce que ce n'est qu'en faisant pression sur l'élite politique que nous obtiendrons les contrôles et les mesures régulatrices que nous voulons. Et enfin, très rapidement, je pense que les litiges stratégiques, l'utilisation de la loi, reste très important aussi. Je pense donc que ce sont là un échantillon des moyens dont nous disposons pour rendre la conversation accessible à un plus grand nombre de personnes.
Merci beaucoup. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que ce que tu as dit est très intéressant parce que nous devrions avoir ces doubles stratégies juridiques d'un côté, alors que ce cadre juridique a émergé en fait très récemment en France sur la corruption. On n'a pas encore beaucoup d'outils juridiques. Et d'autre part, le coût politique de la corruption en France est très faible par rapport à ce que nous pourrions accomplir. Donc espérons que nous sommes sur la bonne voie.
Oui, merci. Tu as écrit ce livre étonnant, Shadow World, Investigations into the Global Arms Trade. Et je me demandais si tu pouvais nous en dire un peu plus sur son application. Est-ce que tu as observé les mêmes modèles partout? Est-ce que c'est la même chose qui se reproduit partout?
So the incredible thing is there is no doubt that there is a sort of a global systemic nature.
Donc ce qui est incroyable, c'est qu'il n'y a aucun doute sur la nature systémique mondiale de la corruption dans le commerce des armes. Même aux États-Unis, où il s'agit d'une forme de ce que j'appelle la corruption légalisée, parce que vous pouvez verser à un politicien une énorme somme d'argent pour sa campagne et ensuite exiger qu'il vous rétrocède des projets de plusieurs milliards de dollars. Et c'est presque accepté, tout est légal. Et nous pouvons le surveiller. En Europe occidentale, en France, au Royaume-Uni, c'est illégal. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de poursuite. Évidemment, dans chaque pays, il y a des idiosyncrasies, des différences, et il faut en comprendre le caractère unique et les caractéristiques attachées à chaque cas. Je ne peux donc pas parler du commerce des armes en Allemagne et en France comme s'ils étaient identiques, mais certains de leurs éléments sont les mêmes. L'implication des hommes politiques, le financement des partis politiques, le détournement des contrôles des exportations d'armes, la violation de la position commune de l'Union européenne sur les exportations d'armes et du traité international sur le commerce des armes. Ce qui est également commun, c'est le lien entre le secteur des ressources naturelles nationales et le commerce des armes. Joe Rober, dont on a parlé plus tôt, qui a avancé le chiffre de 40%, était en fait un intermédiaire dans l'industrie pétrolière et, ayant gagné tellement d'argent, il a quitté l'industrie très tôt et il a vu à quel point la corruption était profonde. Il a donc décidé de rejoindre Transparency International pour commencer à enquêter sur la corruption dans le commerce du pétrole. Il a découvert que l'énorme quantité de corruption dans le secteur pétrolier se situait en fait dans les contrats d'armement liés aux contrats pétroliers et que le paiement des contrats d'armement se fait souvent en pétrole, en particulier pour des pays comme l'Arabie Saoudite, les Émirats, etc. Ce lien est donc profond. En plus de ce que nous voyons dans les zones de conflit, comme dans la République démocratique du Congo, nous voyons des marchands d'armes travaillant souvent pour le compte de politiciens de très haut rang qui échangent des armes, pas seulement avec le gouvernement, mais avec les diverses milices assorties, en échange de concessions minières. Cela se manifeste donc de toutes sortes, de manières différentes. Mais ce lien est incroyablement important. Et ce qui dépend de tout cet édifice de manière systémique, c'est le secret et cette relation incestueuse entre le processus politique, l'État dans son sens le plus large, et ses entreprises privées, les entreprises de défense et les compagnies pétrolières, qui sont presque considérés comme des trésors nationaux parce que nous avons besoin de pétrole et que nous devons être en sécurité. Et c'est ainsi que nos gouvernements verrouillent ces conversations. Donc, l'une des principales raisons, pour revenir à la question précédente d'Alice, pour lesquelles les gens ne pensent pas trop au commerce des armes de leur pays, c'est que nos dirigeants politiques nous disent que nous devons dépenser tous ces milliards, car cela nous protège de toutes ces menaces. Mais lorsque nous examinons ces menaces, on peut se rendre compte que la grande majorité d'entre elles sont construites ou gonflées à outrance. De sorte que nous avons une situation, par exemple au Royaume-Uni, et je suis sûre que ce n'était pas différent en France, où lorsque la pandémie de Covid-19 a débuté, alors que nous n'avions même pas assez de gants et de masques pour nos personnels de santé qui étaient en première ligne, nous avons augmenté notre budget de défense de 17 milliards de livres. Il est clair que nous sommes confrontés à une menace bien plus grande que le fondamentalisme islamiste, quelle que soit sa définition à ce moment précis. Et je me méfie beaucoup de ces termes, car j'ai travaillé pour un homme, Nelson Mandela, que Ronald Reagan ou Margaret Thatcher et d'autres ont décrit comme un terroriste.
Je suis donc très prudent quant à l'utilisation de tous ces mots. Mais la réalité, c'est que les pandémies, la crise climatique, sont des menaces immédiates et à long terme bien plus importantes pour nous en tant qu'êtres humains. Mais nous investissons ces milliards et ces milliards et ces milliards dans le commerce des armes. Il s'agit donc aussi de rompre avec le discours politique systémique établi qui consiste d'une part à nous rendre incroyablement anxieux et d'autre part à être réaliste quant aux menaces qui pèsent sur ce qu'on appelle souvent notre sécurité humaine.
C'est amusant que tu mentionnes ça parce que nous avons récemment travaillé sur une exposition qui sera présentée à Paris du 7 au 10 octobre 2021 et qui s'appelle « Sans armes citoyens », qui est un jeu de mots sur la Marseillaise, comme tu dois savoir, « Aux armes citoyens ». Nous aurons cette exposition et l'une de ces choses que nous voulons démontrer, c'est cette définition très limitée de la sécurité que l'État utilise. Dans cette sorte de perspective de sécurité militarisée, et l'une des choses que nous essayons de faire en tant qu'organisation, et c'est d'élargir la définition de la sécurité, la rendre synonyme de sécurité humaine, ramener les gens au centre du discours, et cela signifie par exemple les soins de santé, toutes ces choses que tu as mentionnées, elles sont toutes liées à notre sécurité. C'est donc vraiment intéressant que tu le mentionnes.
First of all, it's great to hear about the exhibition, and hopefully by then we're able to travel.
D'abord, c'est génial d'entendre parler de l'exposition et j'espère que d'ici là, on sera autorisé à voyager. Nous ne sommes pas seulement des activistes sur le commerce des armes, nous sommes des activistes de l'humanité. Nous avons cette responsabilité de nous préoccuper de la crise climatique. Nous avons cette responsabilité de nous préoccuper des pandémies mondiales. Nous avons cette responsabilité de nous préoccuper des inégalités dans nos propres pays, dans nos propres régions et dans le monde. Et le commerce des armes s'insinue dans tous ces domaines. En raison des sommes d'argent qu'il gaspille, de la quantité de pollution qu'il produit, de la quantité de déplacements de population qu'il engendre et de la souffrance causée, le Yémen est la plus grande catastrophe humanitaire que nous ayons connue depuis des décennies sur la planète. Et elle est causée principalement par les armes françaises, britanniques et américaines. Donc nous devons comprendre que nos campagnes de sensibilisation et notre militantisme traversent toutes ces frontières et s'intéressent à ce qui fonde ces souffrances, à savoir des systèmes économiques et politiques profondément déséquilibrés qui, bien entendu, se tiennent très confortablement la main pour servir les intérêts d'une infime minorité de personnes très puissantes et très riches au détriment de la grande majorité des gens.
Je suis tout à fait d'accord. Et le commerce des armes est toujours l'exception aux règles dans tous les domaines. Dans les règles commerciales, par exemple, ils sont les seuls. C'est la seule industrie qui peut utiliser les compensations, n'est-ce pas ?
Absolutely, but we can't even ask these questions because they're matters of national security. So you're quite correct.
Absolument. Et nous ne pouvons même pas poser ces questions parce que ce sont des questions de sécurité nationale. Donc tu as tout à fait raison. L'Organisation mondiale du commerce interdit l'utilisation d'offset, qui sont des absurdités économiques. Il s'agit en gros d'un engagement selon lequel si vous achetez 100 dollars ou euros de nos armes, nous investirons 120, 150 ou même 200 euros dans votre économie. Ces engagements ne sont jamais tenus, sauf occasionnellement aux États-Unis ou en Inde, ce qui est intéressant, mais ils sont toujours utilisés par les politiciens pour justifier des contrats d'armement massifs qui sont injustifiables autrement. L'OMC a constaté ce problème d'offset dans tous les secteurs et les interdit comme critère de décision pour les achats ou les marchés publics, à l'exception du secteur de la défense. Et pourquoi est-ce que c'est si important ? Eh bien parce que les offsets sont le principal moyen utilisé par les intermédiaires pour la corruption dans le commerce des armes. Nous nous sommes donc engagés dans un processus où nous avons fait des recherches et nous avons commencé à discuter avec l'OMC pour modifier cette exemption. Et cette notion d'exemption pour la sécurité nationale, bien sûr qu'il y a certaines choses qui ne devraient pas être dans le domaine public, je veux dire. J'aimerais un monde sans guerre, mais ce n'est pas ce que nous avons pour le moment. Donc il y a certaines choses que nous pouvons comprendre, doivent être gardées secrètes. Mais il y a une quantité infime de choses qui doivent l'être. Au lieu de cela, ce qu'il se passe, c'est que nos gouvernements et nos entreprises gardent secret ce qui est souvent constitué comme un comportement criminel pour lequel ils devraient être poursuivis. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles ils gardent ce secret national. Et c'est pourquoi ils l'ont couvert pendant si longtemps. C'est donc pour cette raison que nous ne devons pas laisser ceux et celles qui sont au pouvoir se cacher derrière ce voile de sécurité nationale. Je pense que c'est la façon parfaite de terminer notre entretien, parce que ce que nous voulons offrir, c'est une réflexion sur la façon de vivre dans une société pacifique, ou en tout cas pacifiée. Donc comment pouvons-nous faire face à la corruption pour rendre cette société plus pacifiée et pour que les gens soient en sécurité? Comment pouvons-nous, probablement nous ne pourrons pas nous débarrasser de la corruption dans les semaines à venir, mais comment pouvons-nous penser une société meilleure qui mettrait tout le monde en sécurité alors qu'il existe ces problèmes de corruption?
The starting point is the understanding that we are active citizens.
Le point de départ, c'est comprendre que nous sommes des citoyens actifs. Dans nos démocraties libérales, dans lesquelles nous avons la chance de vivre, nous sommes devenus beaucoup trop passifs. Nous pensons qu'avec chaque vote, tous les 4 ou 5 ans, nous sommes engagés politiquement. Ce n'est pas le cas. En conséquence, nous observons le discours politique, nous observons la politique s'enfoncer de plus en plus dans les bas-fonds. Nous observons la montée de l'extrême droite. Nous avons vu l'extrême droite occuper le bureau ovale de la Maison-Blanche. Nous observons l'extrême droite occuper le 10 Downing Street. Nous voyons en France quelqu'un qui se décrit comme un centriste, quelqu'un qui s'est engagé dans la politique dès l'âge de 12 ans et qui a toujours été un fonctionnaire d'État. Je pense donc que nous devons reprendre le contrôle de nos vies. Nous devons nous rappeler que les personnes qui siègent au Parlement, les personnes que nous élisons aux bureaux régionaux, sont toutes là pour nous représenter. Et s'ils ne nous représentent pas, en faisant de notre société une société plus sûre, plus pacifique, plus saine, plus juste et plus égale, nous devons leur retirer notre soutien. Et nous pouvons le faire de multiples façons. Évidemment, en ne votant pas pour eux. Mais en choisissant peut-être aussi nous-mêmes nos candidats politiques qui envisagent des visions du monde différentes. Ou même en allant jusqu'à faire comme certains vétérans de guerre aux États-Unis qui calculent que 30 cents sur chaque dollar qu'ils payent en impôts participent à la machine de guerre des États-Unis. Ils ne payent donc que 70% de leurs taxes et les autorités fiscales ne savent pas quoi faire dans cette situation. Ils le font depuis des années et des années maintenant parce qu'ils ne veulent pas financer la machine de guerre américaine. Nous pouvons donc même envisager des mesures aussi extrêmes que celles-ci. Nous avons vu l'impact que les activistes climatiques ont eu sur la fermeture d'une partie de notre économie qui est basée sur les combustibles fossiles. Et je pense que nous devons en tirer des leçons et travailler ensemble sur ce genre de choses. Mais comment pouvons-nous vivre dans une société pacifique et pacifiée? Nous devons nous rééduquer et nous avons la capacité et le pouvoir de le faire en tant qu'être humain. Je crois beaucoup à la compétence et à la capacité de chaque être humain à apporter du changement. Vous savez, en France, vos dirigeants politiques vous ont dit qu'en participant aux missions de bombardement de l'OTAN en Libye, vous rendiez la France plus sûre. Eh bien, en fait, ce n'était pas le cas. Parce que la première chose que les bombardiers de l'OTAN devaient bombarder, c'était les missiles anti-aériens que la France et d'autres pays avaient vendus à Mouammar Kadhafi lorsqu'il dirigeait la Libye. Et le bombardement de ces engins, puis le soutien au renversement de la Libye, ont en fait rendu le pays beaucoup moins stable et ont rendu beaucoup plus probable que des personnes en marge de la société passent à l'action contre des citoyens français ordinaires et innocents. Nous créons ces conditions, mais ensuite nos politiciens se lèvent et pointent du doigt le reste du monde, excepté eux-mêmes. Nous devons rediriger ces accusations et les pointer vers les responsables, c'est-à-dire vers les politiciens eux-mêmes, et leur demander où se trouve le véritable danger pour notre sécurité.
Et pour l'instant, je dirais qu'en investissant davantage dans la lutte contre le changement climatique, qui pourrait quand même mettre fin à la vie humaine telle que nous la connaissons, mais je sais que cela pourrait affecter les amis patrons du président Macron, nous ferions bien plus pour assurer notre sécurité et notre sûreté à l'avenir que de vendre des armes à tous les régimes non démocratiques, autocratiques et agressifs du monde, ce que la France fait actuellement et a fait pendant des décennies et des décennies. En investissant suffisamment d'argent dans la santé publique, la recherche et les mesures préventives pour empêcher la propagation des pandémies, comme nous avons pu le voir pour le Covid-19, nous serions bien plus en sécurité qu'en dépensant 10 milliards d'euros supplémentaires pour le dernier avant de chasse produit par les entreprises françaises. Parce que la réalité, c'est que la France ne va pas être en guerre avec qui que ce soit pendant des générations et des générations à venir, ou même que les avions de combat vont être d'une quelconque utilité. Car ce n'est plus comme ça qu'on fait la guerre aujourd'hui. Et même s'il y avait quelqu'un qui voulait commencer une guerre contre la France, et s'il y en a un, je ne sais pas qui est ce pays ou qui sont ces gens. Donc je pense qu'il s'agit de réorienter la façon dont nous comprenons le monde
Et je vais vous donner une statistique, et je pense qu'il pourrait être utile pour vous d'essayer de générer une statistique similaire en France. Aux États-Unis, et ceci se trouve dans le livre Indefensible, que j'ai mentionné sur le site projectindefensible.org, nous citons une étude qui montre qu'au plus fort de la rhétorique de la guerre contre le terrorisme, 43% des Américains pensaient qu'un membre de leur famille proche, donc épouse ou époux, enfant, sera probablement tué dans une attaque terroriste au cours des 12 prochains mois. Mais en réalité, il est beaucoup plus probable qu'un Américain soit tué par un enfant de 5 ans ou moins utilisant sa propre arme dans sa propre maison que par n'importe quelle forme de terrorisme. Qu'il s'agisse du terrorisme d'extrême droite des suprématistes blancs ou de l'extrémisme islamiste, soi-disant terrorisme. Mais près de la moitié des Américains vivent dans la crainte constante d'être tués, eux ou un de leurs proches, par une forme quelconque de terrorisme étranger. Il serait maintenant très intéressant de savoir quelles sont les statistiques similaires en France concernant les causes probables de décès et où nous investissons donc notre argent. Parce que malheureusement, il y a en France, comme partout dans le monde, ce qu'on appelle une élite de la sécurité nationale composée de politiciens de très haut niveau, en particulier des portefeuilles de la défense et du renseignement, des chefs des agences de renseignement, des chefs des forces armées et bien sûr des entreprises de défense. Et ils bénéficient tous matériellement de la provocation de cette peur parce que la réalité est que nous obtiendrons une sécurité bien plus grande en négociant et en investissant dans la paix et dans la sécurité humaine au sens le plus large possible. Mais vous savez, pour conclure, je dois vous dire que parfois, faire le travail que vous faites, ce que certains appellent le travail des anges, peut être très frustrant. Et vous avez parfois l'impression de vous frapper la tête contre un mur de briques. Mais depuis plus de 20 ans que je fais ce travail, en France, en Europe, au Royaume-Uni, aux États-Unis, et même en Chine et en Russie, j'ai vu beaucoup plus de choses qui ont été dites, qui ont été écrites sur le commerce des armes, sur ce qu'est la vraie sécurité au cours des 6 ou 7 dernières années, que pendant les 13 ou 14 années précédentes. Et cela doit être positif. Et nous atteindrons ce point de basculement lorsque la majorité des gens réaliseront à quel point nos dépenses en matière de guerre, en matière de conflit, sont absurdes par rapport aux menaces réelles auxquelles nous sommes confrontés. Nous devons donc continuer à diffuser des informations dans le domaine public. Nous devons continuer à utiliser les expositions d'art, les films, les réseaux sociaux, les livres, les bandes dessinées, tout ce que nous pouvons pour continuer à éduquer les gens sur la réalité du monde dans lequel nous vivons. Et à ce propos, laissez-moi vous dire que je viendrai présenter le film Shadow World dans différentes régions de France, tout comme nous l'avons fait au Royaume-Uni. J'ai parcouru plus de 20 000 km au Royaume-Uni pour montrer le film à des dizaines de milliers de personnes, parce que, comme en France, le film n'a jamais été diffusé au Royaume-Uni. Et pire encore, la France est l'un des très rares pays au monde où le livre Shadow World n'a jamais été traduit. Et la seule façon d'y parvenir, c'est d'aller sur le terrain et de communiquer avec les citoyens et les citoyennes français ordinaires et de leur rappeler qu'être un ou une citoyenne en France, de tous les pays étant donné son histoire politique, c'est jouer un rôle actif dans la création de la communauté, du pays et du monde que vous voulez voir. Nous ne devons pas non plus oublier, lorsque nous réfléchissons à la peur et à l'anxiété omniprésente dans nos sociétés face à des menaces dont la probabilité est en fait infime, que nos grands médias, les principales sources d'information, nous ont gravement déçus ces dernières années. Ils ne fournissent aucune sorte d'équilibre dans les informations que nous recevons. La couverture des conflits, de nos héros, des raisons pour lesquelles nous avons besoin d'armes, des raisons pour lesquelles nous devons vendre des armes, et pour moi, si souvent à la une et dans les grands titres, sans un mot de critique, sans un mot de réflexion, d'analyse perspicace, et la raison pour cela, elle est malheureusement très simple, beaucoup des grands médias en France, comme dans le reste du monde, sont détenus par les mêmes acteurs politiques et économiques qui possèdent les entreprises de défense et qui sont les acteurs qui bénéficient d'un climat de peur. Ils ne voient peut-être pas l'intérêt pour eux d'une France plus juste, plus équitable, plus respectueuse du climat et plus saine, car pour l'instant, ils bénéficient matériellement de la façon dont le pays est organisé et la façon dont ils se positionnent dans le monde. Je pense donc que c'est à nous, en tant que société civile, c'est à nous d'assumer le rôle des médias et d'utiliser les réseaux sociaux, mais nous devons les utiliser de manière informée et factuelle afin de pouvoir nous différencier des absurdités qui apparaissent parfois dans les réseaux sociaux à propos de certaines de ces questions. Et c'est de cette façon que nous pourrons participer à la construction d'une citoyenneté et d'une population plus informée, plus éduquée et donc plus pacifiée.
Merci d'avoir écouté cet épisode de Repensons la paix et la sécurité. Nous espérons que vous l'avez trouvé instructif. Un grand merci, surtout à notre invité Andrew. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux @stopfeelingwar, STOPFUELINGWAR, sur Facebook, Twitter, LinkedIn et Instagram. Merci, au revoir.